Mesdames, messieurs, bonjour à tous. Voilà, donc je pense que chacun a son exemplaire, qui est un glossaire qui va nous servir pour le chapitre, qui s'annonce, et que l'on va démarrer par une question. La question est très simple, quand est-ce que le judaïsme parvient-il en Gaule? Donc là, il y aurait finalement deux réponses à faire. Il y a la réponse qui se rattache à la grande tradition juive, mais cette tradition juive n'est pas forcément recoupée par le travail de l'historien. Et donc, il y aura la réponse de l'historien. Alors, on commence d'abord par la tradition. Donc, la tradition qui nous est... À ce propos, donnée là par Gérard Naon, hein, c'est une référence bibliographique qui s'affiche sur la projection, qui a publié en 2003 « Juifs et judaïsme à Bordeaux », où là vous trouverez justement donc toutes ces références tout à fait précieuses. Alors, l'auteur Naon va citer, pour évoquer cette tradition, donc l'arrivée du judaïsme en Gaule, il va citer Judas bar Eliezer Sévi, qui est un chantre de la synagogue de Troyes, qui en 1407 copiait à Chambéry un rituel de prière, et ce faisant, il consignait cette tradition qui était plus que séculaire, une tradition qui évoque justement l'arrivée des Juifs en Gaule, et on va lire bien sûr donc un passage, donc il nous parle d'une prière, hein, mais bon, pour nous ça n'est qu'un prétexte. La prière se commence par « Mais Dieu est miséricordieux et il expie le péché ». Et notre auteur Judas bar Eliezer Sévi tente d'expliquer d'où vient cette prière, pourquoi la récite-t-il donc le lundi et le jeudi, enfin voilà, donc c'est à ça qu'il va répondre. Donc la prière, dit-il, que nous récitons debout le lundi et le jeudi, a été instituée par des hommes exilés de Jérusalem après la destruction du second temple par Vespasien, donc je vous rappelle, 70 de notre ère, hein, c'est pas 10 à part Judas bar Eliezer Sévi qui s'en tient à la destruction du second temple par Vespasien, pas tout à fait exact d'ailleurs, historiquement c'est pas tout à fait exact. Donc il rajoute, notre auteur, Vespasien ordonna de faire 3 vaisseaux, d'y embarquer ses hommes, donc ces hommes qui sont des hommes de bien exilés de Jérusalem, d'y embarquer ses hommes sans gouvernail, et il les abandonna sur la mer. Le vent se leva et les jeta sur les rivages de contrées différentes. Un vaisseau accosta à Lyon, le deuxième en la cité d'Arles, et le troisième en la cité de Bordeaux. Ceux qui s'installèrent à Bordeaux, le Seigneur les accueillit avec bienveillance et leur donna des champs et des vignes. Ils y vécurent de longs jours paisiblement jusqu'à la mort de ce prince et à l'accession d'un nouveau. Ce qu'avait établi le premier et le deuxième l'abrogea et il prit à leur encontre des décrets hostiles. Il y avait 2 frères, Joseph et Benjamin, auxquels se joignit leur cousin Samuel. Tous 3 étaient gens de Jérusalem. Dans leur détresse, ils implorèrent le Seigneur, observèrent jeûnes et carêmes, et composèrent à eux 3 la prière. La fameuse prière, hein, je vous rappelle, hein, donc Judas bar Eliezer Sévi, lui, ce qu'il veut, c'est expliquer cette prière, donc hein, d'où vient cette prière, mais Dieu est miséricordieux et il expie le péché, etc. Donc d'où vient cette prière, ben maintenant on sait, c'est les deux frères plus le cousin qui implorent le Seigneur et qui composent à eux 3 la prière, et ces gens finalement étaient à Bordeaux. Ils étaient à Bordeaux. Or, ce sont des gens de Jérusalem. Ils viennent de Jérusalem, ils sont à Bordeaux. Et comme le deuxième seigneur est particulièrement hostile aux Juifs, alors il compose la prière. Alors, donc c'est intéressant, on a ici une tradition qui est intéressante. Mais il faut prendre de la distance quand même par rapport à cette tradition, rappeler qu'elle s'inscrit dans une tradition beaucoup plus vaste, hein, qui rend compte de quoi? De la reconstruction du judaïsme après 70 de notre ère, qui est un traumatisme baptisme que vous connaissez. Vous savez que le judaïsme antique disparaît purement et simplement et qu'un autre judaïsme apparaît et se développe après 70 de notre ère. C'était le programme, je crois, de l'an dernier. Donc il faut être très prudent quant à cette tradition. On voit d'ailleurs qu'il y a de grands thèmes qui sont chers aux religieux, comme le thème par exemple de la providence, quand on apprend que Vespasien embarque ses hommes, ces hommes de bien exilés de Jérusalem après la destruction du second temple, donc il y embarque ses hommes sans gouvernail. Et ils vont échouer pour l'un à Lyon, pour l'autre à Arles et pour les derniers à Bordeaux. C'est la providence qui les conduit jusqu'ici. Et autre thème aussi cher aux religieux, c'est le thème du petit reste. Un petit reste est sauvé. La destruction de Jérusalem est catastrophique, c'est terrible, donc cette destruction de la ville. Mais un petit reste est sauvé, et ce reste est une racine qui ne demande qu'à s'épanouir. Voilà, donc c'est pour ça que l'historien est extrêmement prudent quant à cette tradition, et les historiens vont plutôt privilégier l'hypothèse d'immigration, finalement, mais des immigrations successives. On ne peut pas imaginer que d'un coup, si vous voulez, après 70 de notre ère, ces juifs arrivent en Gaule. Donc ce sont des immigrations qui sont successives par les vallées du Rhône et de la Saône, et quand ils arrivent ici en Gaule, des païens se convertissent. Ces païens, c'est qui? Ce sont des Gallo-Romains. Or, nous sommes à une époque, vous le savez, parce qu'on l'avait signalé en début de programme, on est à une époque où les Romains et donc les Gallo-Romains regardent de très près les cultes qui viennent d'Orient et sont tout à fait prêts à adopter ces cultes. C'est un phénomène, si vous voulez, qui se produit, notamment à partir du 1er siècle de notre ère. Tous les cultes qui arrivent d'Orient sont très appréciés par les Romains, par les Gallo-Romains. Parmi ces cultes, le judaïsme, et parmi ces cultes, un judéo-christianisme qui va aussi intéresser quelques-uns de ces Gallo-Romains qui deviendront chrétiens. Donc il y a des conversions effectivement de païens au judaïsme, au judéo-christianisme, et donc finalement au christianisme tout court. Quoi qu'il en soit, c'est ce que nous disent les historiens. Ensuite, il est vrai que les vestiges archéologiques sont quand même assez maigres pour témoigner de cette présence des juifs en Gaule dès cette époque, c'est-à-dire dès après 70 de notre ère. Il y a quelques inscriptions funéraires quand même qui témoignent de leur présence, des inscriptions qui sont d'abord grecques, d'autres latines, puis des inscriptions hébraïques qu'on a pu trouver à Antibes, à Lyon, à Vienne, à Narbonne, mais encore bien sûr à Bordeaux. Et les noms portés par ces juifs sont Astérius pour l'un, Aurelia Sabatia pour l'autre, Dulcie Aurela pour l'autre, Justus, Samuel, et j'en passe. Enfin, là vous avez un témoignage épigraphique qui atteste bien la présence des juifs en Gaule après ce traumatisme. Je vous rappelle que la ville de Jérusalem était inhabitable après la destruction voulue par Titus, parce que c'est Titus qui a détruit la ville et le temple. Alors voilà donc pour cette situation. On pourrait aussi citer un auteur qui est extrêmement précieux, un chroniqueur, historien, qui a vécu au VIe siècle de notre ère et qui va raconter une histoire des Francs qui reste tout à fait intéressante à exploiter, même si bien sûr il faut être prudent par moment. C'est lui qui va évoquer des communautés juives à, par exemple, Clermont, à Marseille, à Orléans, à Paris. Donc là, on a une confirmation. Donc il y a bien effectivement des communautés juives en Gaule à l'époque mérovingienne, à l'époque de Grégoire de Tours. Donc ces communautés viennent de plus loin dans le temps. C'est que les juifs sont arrivés plus tôt, bien sûr, avant l'époque de Clovis. Et mérovingiens comme carolingiens vont même engager des juifs à leur leur service. Et l'exemple le plus célèbre, c'est l'exemple d'Isaac. Isaac, c'est un juif qui est diplomate, c'est un donc quelqu'un qui est au service de Charlemagne, et Charlemagne délègue Isaac à Bagdad auprès d'un calife, là, qui est le calife Haroun al-Rachid, très très grand calife, bien sûr, c'est un homme très important, enfin a priori, c'est l'homme le plus puissant du monde, avec l'empereur de Chine, à cette époque, c'est ce calife qui est l'homme le plus puissant du monde. Rappelons peut-être que Bagdad, qui est une ville tout juste créée, qu'on appelle Bagdad la Ronde, est une ville qui est très très importante, ça sera la plus grande ville au monde, comptant peut-être, disons, avant l'attaque des Mongols, avant l'arrivée de Ulagu Khan, donc 1 million d'habitants, peut-être, donc c'était une ville très importante, mais ça c'est un peu plus tard. Donc Bagdad. Donc le diplomate Isaac arrive à Bagdad, et le calife Haroun al-Rachid lui remet en cadeau pour Charlemagne un éléphant. Et donc, on imagine le retour d'Isaac, qui reviendra de Bagdad jusqu'à Aix-la-Chapelle avec l'éléphant en question. L'histoire est célèbre, je crois. Donc l'éléphant s'appelle Aboulabaz. Aix-la-Chapelle, je vous rappelle, c'était la capitale de Charlemagne. Il avait décidé de fixer effectivement là-bas, parce qu'il y avait des termes, sa capitale. Il y avait son palais et puis la fameuse chapelle palatine d'Aix-la-Chapelle, que vous connaissez sans doute, qui est à visiter, qui est tout à fait remarquable. Donc notre diplomate revient de Bagdad avec l'éléphant. Aboulabaz, nous sommes précisément l'an 802, et l'éléphant en question, dont on a des traces visuelles parce qu'il y a des peintres carolingiens qui ont laissé des miniatures, enfin au moins une miniature qui le représente, cet éléphant Aboulabaz, mais c'est un peu grotesque ce dessin-là que le peintre a fait, donc je ne le montre pas. Manifestement, le peintre a été surpris quand même, donc de voir un éléphant, et il a eu du mal quand même à bien suivre le contour du corps massif de l'éléphant en question. Enfin bon, donc passons, donc cet éléphant vivra jusqu'en l'an 810, 802-810, à Aix-la-Chapelle. Et il semble même qu'à sa mort en 810, on récupère l'ivoire de ses défenses pour en faire des plâtre-reliures. Des plâtre-reliures, c'est-à-dire donc des couvertures de manuscrits, si vous voulez. Et on pense que ce sont les plâtre-reliures de l'évangéliaire de Lorsch. Donc l'Orche est un gros monastère à cette époque, effectivement, donc on a encore conservé des plâtre-reliures en ivoire qui sont peut-être les défenses de l'éléphant Aboulabaz, peut-être, peut-être pas. Bon, ça dure pas trop longtemps, puisque Agobard, archevêque de Lyon, conteste très vite les privilèges de ces juifs. Agobard, il est mort en 840, nous sommes bel et bien à l'époque carolingienne, et effectivement les conciles de Meaux et de Paris confirment finalement cette décision d'Agobard. Les deux conciles en question réclament l'exclusion des juifs des fonctions publiques, entendons-nous bien, des fonctions publiques. C'est la référence à Isaac, qui lui était diplomate au service de Charlemagne. Voilà un petit peu la situation. Ensuite, on peut se servir, l'historien se sert des manuscrits hébraïques eux-mêmes, qui vont nous éclairer sur ces communautés. Les manuscrits hébraïques, qui certes ne sont pas plus vieux que le Xe siècle de notre ère, donc ils sont finalement assez tardifs pour évoquer cette époque et le Haut Moyen-Âge, ils nous éclairent quand même sur ces communautés, comment elles sont gérées. Elles le sont par des Tobéahir, c'est-à-dire des bons de la ville, qui sont des gens élus. Donc les communautés juives élisent des gens qui sont les bons de la ville pour gérer les communautés. Il y a aussi les Parnassim, c'est écrit à côté. Les Parnassim sont des administrateurs responsables de la charité, de l'acquisition et de l'entretien des synagogues, responsables aussi des cimetières. Et justement, on vient d'évoquer quelque chose qui est fondamental, la synagogue. La synagogue, ce sont des communautés qui sont bien constituées depuis au moins le 1er siècle de notre ère, en Gaule, comme on l'a expliqué. Des communautés qui s'épanouissent malgré les décisions d'Agobard et des conciles de Meaux et de Paris, des communautés organisées et des communautés qui s'articulent autour de la synagogue. Il y a une synagogue, forcément, dans ces communautés. Alors, en la synagogue, les fidèles nous disent ces manuscrits hébraïques qui parlent des communautés en Gaule. Donc, les fidèles récitent trois prières quotidiennes, remplaçant les sacrifices d'antan au temple de Jérusalem. Hein, vous savez effectivement comment ça s'est passé. Avant 70 de notre ère, les sacrifices, le culte était concentré au temple de Jérusalem. Une fois détruit, il faut faire évoluer ce judaïsme qui va effectivement évoluer vers un judaïsme rabbinique, un judaïsme synagogal. On avait fait la distinction l'an dernier, je crois, entre les deux judaïsmes. Et donc on va remplacer le sacrifice au temple de Jérusalem par des prières, essentiellement des prières. Donc on se rassemble dans des salles, dans des synagogues si vous voulez, pour des prières. Bon, et ces manuscrits hébraïques le confirment. Le samedi, les jours de fête, on lit à haute voix la Torah d'après un rouleau manuscrit sur parchemin conservé dans l'Arche Sainte. Ça veut dire effectivement qu'il y a une arche armoire dans la synagogue, et dans cette arche armoire il y a un rouleau manuscrit, c'est un manuscrit sur parchemin qui n'est autre que la Torah, c'est-à-dire l'Ancien Testament, qu'on lit tout simplement lors du Shabbat, les jours de fête, etc. Donc les jours de fête, à ce propos, très vite, Pessah, Shavuot, Sukkot, vous l'avez sur le glossaire, mais enfin c'est juste pour dire, c'est bien attesté, ces communautés juives de Gaule au haut Moyen-Âge fêtent la Pâque, c'est-à-dire Pessah, c'est-à-dire la sortie d'Égypte, Shavuot, sorte de Pentecôte, c'est le don de la loi au mont Sinaï, et puis Sukkot, la fête des cabanes, la fête des huttes, qui rappelle bien sûr le séjour des Hébreux au désert. Bon, mais je reviens plutôt sur l'allusion à ces rouleaux manuscrits sur parchemin conservés dans une armoire qu'on appelle l'Arche Sainte à l'intérieur de la synagogue. Ça veut dire qu'il y a des manuscrits. Et la question se pose à propos du Talmud. Hein, le Talmud, là aussi, j'insiste pas, vous l'avez sur le glossaire, le Talmud. Hein. Ce sont des termes qu'on avait vus ça l'an dernier, peut-être même en début d'année. Et vous avez le glossaire si vous avez un doute sur ce qu'est le Talmud. Il y en a deux. Hein. Jérusalem-Babylone, compilé au 6e siècle en Irak. Le Talmud, pour faire le plus simple possible, est une somme de commentaires de la Torah. Je fais très très simple là-dessus. Et si ces Talmuds de Jérusalem et Babylone sont compilés au plus tard au 6e siècle en Irak, ils ne parviennent pas en Europe avant le 10e siècle. Mais à partir du 10e siècle, on peut dire effectivement que ces Talmuds, qui sont donc des commentaires assez poussés de la Torah, nourrissent les leçons des fameux Acmé Sarfat, dont vous avez la référence sur la projection. Les Acmé Sarfat sont les sages de France, et pour que ce soit bien concret, hein, pour pas que l'on puisse penser que c'est une proposition d'historien, non, les historiens tombent sur des noms. Moïse, le prêcheur de Narbonne, Joseph Tobelem de Limoges, Gershom ben Judas de Metz, autant d'Acmé Sarfat, des sages qui enseignent, qui font des leçons sur la base du Talmud, donc de ces commentaires qui ont été faits un peu plus tôt. Donc oui, 10e siècle en Europe, on peut dire qu'il y a des Talmuds, et on peut dire que dans les synagogues des communautés juives, il y a des rouleaux, c'est la Torah, c'est le Talmud, et plus, hein, je vous renvoie au glossaire, puisque le glossaire vous renvoie à chaque article, à d'autres articles. Voilà, bon, alors donc ainsi, on visualise quoi ? Des communautés juives qui sont bien implantées en France et qui vont s'agrandir, qui profitent finalement de la faveur des souverains. Ce qui s'est passé avec Agobard et les conciles de Meaux et de Paris sont plutôt pour cette époque des accidents. C'est accidentel parce qu'effectivement, l'historien nous dit que jusqu'au XIIe siècle, ces communautés grandissent, elles sont favorisées, et favorisées entre autres au XIIe siècle par Louis VI le Gros et Louis VII le Jeune. Alors c'est important de le dire parce que leur successeur sera plutôt hostile aux Juifs, mais pas Louis VI le Gros et ni Louis VII le Jeune. À eux deux, ils couvrent à peu près donc le XIIe siècle. Louis VI le Gros a régné de 1108 à 1137, et Louis VII le Jeune sont les rois de France, hein, donc je ne cherchais pas les références sur la projection. Donc Louis VII le Jeune, c'est 1137-1180, et grâce à ses faveurs, grâce aussi à une immigration, c'est-à-dire qu'il y a bien des juifs de Palestine qui savent ou qui connaissent la réputation des communautés juives de Gaule, dans quelles conditions ces communautés vivent, c'est-à-dire qu'elles vivent bien, elles vivent très très bien, et ça provoque une immigration. Donc ces communautés grandissent aussi de cette façon, elles grandissent par donc l'effet d'une croissance démographique. Et c'est vrai pour le royaume de France, qui, ne l'oubliez pas, à cette époque est relativement petit, mais aussi les grands fiefs attenants, comme par exemple, je ne sais pas, le comté de Toulouse, par exemple. Donc les historiens le disent, parlent de cette croissance pour ce royaume de France, pour les grands fiefs attenants, et nous disent précisément que les synagogues étaient constituées, les communautés étaient bien constituées avec leurs synagogues, leurs écoles, leurs fours pour la cuisson des pains azim de la Pâque, mais encore des cimetières, et même à province, en Seine-et-Marne, une léproserie. Je m'empresse de rajouter que tout ça, ce sont les travaux des historiens qui travaillent, eux, sur des archives, parce que archéologiquement, on n'a rien. C'est pas compliqué, on n'a rien, ou pas grand-chose, hein. Et d'ailleurs, ça suscite une question, comment c'est possible? Alors que l'historien, de son côté, va nous faire un portrait de ces communautés juives, donc tout à fait exceptionnelles, c'est-à-dire des communautés qui grandissent depuis leur constitution, disons, à partir du premier siècle de notre ère. Elles grandissent, elles deviennent fortes, puissantes, et on n'a rien archéologiquement. Donc là, ça pose effectivement un problème. Bon, mais enfin, bon, vous connaissez la perspective de ce chapitre, et vous avez compris pourquoi on n'a rien. On n'a rien parce qu'on a expulsé les Juifs, tout simplement, on les a expulsés de France, hein, au XIVe siècle. Hein. C'est-à-dire que après les deux règnes, justement, de Louis VI le Gros et Louis VII le Jeune, la Gaule, la France si vous voulez, mais c'est pas tout à fait la France encore, la Gaule devient plutôt hostile aux Juifs. Alors, suivons encore l'historien, qui effectivement confirme la situation plutôt favorable des communautés juives jusqu'à l'époque, disons, de Louis VII le Jeune, et les historiens nous disent, les Juifs cultivent des champs et des vignes, comme à Paris par exemple, sur la montagne Sainte-Geneviève, ou alors ils pratiquent l'artisanat, ils pratiquent bien sûr le prêt à intérêt, mais rappelons aussitôt que le prêt à intérêt est strictement interdit par l'Église aux chrétiens, les chrétiens n'ont pas le droit de faire du prêt à intérêt, donc ce sont les Juifs qui le font, les Juifs lèvent même taxes et péages seigneuriaux ou royaux. Et enfin, l'historien précise que l'on connaît même des seigneurs juifs, qui sont suffisamment puissants pour octroyer des fiefs, et notamment en Languedoc. Et là, vous avez une preuve, effectivement, de la tenue, si vous voulez, des communautés juives de France, hein, au moins jusqu'au XIIe siècle. Hein. Voilà. Donc, alors, par exemple, à Narbonne, un de ces seigneurs juifs très puissants qui est capable d'octroyer des fiefs s'appelle ou est appelé le roi juif. Le roi juif, ce qui suggère effectivement sa puissance, sa richesse, sa fortune, que sais-je. Bon. Alors, ceci se double d'une renaissance intellectuelle. Et oui, forcément, si ces communautés jusqu'au XIIe siècle s'épanouissent, bah, ça profite à une renaissance intellectuelle. Les historiens d'ailleurs nous disent, cette renaissance intellectuelle s'amorce au XIe siècle, dans le Limousin et le Maine. La renaissance intellectuelle s'épanouit au XIIe siècle grâce notamment à la multiplication de manuscrits hébraïques, donc ces manuscrits dont on s'est servi là tout à l'heure pour évoquer l'organisation des communautés et parler des Tobéaïr ou des Parnassim. Donc effectivement, ces manuscrits hébreux se multiplient au XIIe siècle, donc c'est-à-dire que là, ben oui, on a concrètement les ouvrages conservés aujourd'hui dans des bibliothèques, mais encore, c'est une renaissance intellectuelle qui s'appuie sur des écoles. L'école est aussi importante, finalement, que la synagogue, se relie souvent à la synagogue. C'est au-dessus de la salle de prière de la synagogue que l'on trouve le plus souvent des salles qui sont les salles de l'école, tout simplement. Donc, effectivement, ça nous conduit à la Champagne qui s'impose sur ce point-là, donc de la Renaissance intellectuelle, avec un personnage que l'on verra la semaine prochaine, Salomon ben Isaac, c'est-à-dire Rachi. Rachi de Troyes, il est très très célèbre, on le verra la semaine prochaine, il a vécu de 1040 à 1105, il représente à lui tout seul cette Renaissance intellectuelle à Troyes. Il avait des disciples. Ses disciples ont continué son travail. Hein. Bon, tout ça, on le verra la semaine prochaine, tout ça. Donc, voilà. Donc, en tout cas, ça vaut une petite idée de la situation des communautés juives en France pendant le haut Moyen-Âge jusqu'au XIIe siècle. XIIe, disons, XIIIe siècle. Hein, XIIe, XIIIe. Fin XIIe avec Philippe Auguste, ça commence donc à moins bien se passer avec les juifs. Au XIIIe siècle, ça se maintient encore un peu. Au XIVe siècle, dès le début du XIVe, hein, c'est en 1306, hein, on les expulse de France. Hein. Les Anglais l'avaient fait avant nous, donc au XIIIe siècle. L'Espagne le fera à la fin du XVe. On l'a fait effectivement, nous, en 1306. Hein. Décision de Philippe le Bel. Alors donc, oui, effectivement, donc on revient sur cette curiosité, presque finalement un paradoxe. Les historiens ont des sources, des archives qui permettent de dresser le portrait que l'on a fait, et l'archéologue n'a rien. C'est étonnant quand même, hein. L'archéologue n'a rien. Alors, pas tout à fait vrai. L'archéologue a fait des découvertes qui sont à ce propos relativement récentes. Entendons-nous bien, nous parlons du judaïsme médiéval. Je ne vous parle pas du judaïsme d'aujourd'hui, hein, des synagogues que l'on peut trouver aujourd'hui, mais bien donc des synagogues et donc des communautés juives, archéologiquement, du Moyen-Âge. Alors, effectivement, il y a eu une trouvaille qui a relancé le débat sur la présence juive en Gaule, donc ces communautés qui s'étaient constituées depuis le 1er siècle de notre ère. C'est une découverte qui a été faite il y a 30-35 ans à peu près. À Rouen, on a trouvé ce bâtiment qui se situe dans le quartier juif médiéval de la ville de Rouen. Et à partir de là, une fois sa découverte, sa mise au jour par les archéologues, a commencé un débat assez long relatif à son utilisation et son fonctionnement. Pour le dire autrement, on n'était pas d'accord. Hein, entre archéologues, historiens, historiens d'art, on n'était pas d'accord sur l'utilisation de ce bâtiment. Et pour être plus concret, prenons les historiens de l'art. Hein. Les historiens de l'art rattachaient plutôt ce bâtiment à un type civil anglo-normand, donc les historiens d'art qui analysent par exemple le style de la fenêtre, de l'ouverture, donc la maçonnerie, l'appareil utilisé, y voient un type architectural civil, anglo-normand, de style anglo-normand. Hein, donc ça, c'est les historiens d'art. Les archéologues ne sont pas d'accord et disent c'est une synagogue. Ça montre la difficulté quand même. Hein. Ça montre finalement les lacunes que nous avons en France pour parler du judaïsme médiéval. Hein, c'est même vertigineux, carrément. Hein. Alors oui, effectivement, c'est assez impressionnant. Mais moi, personnellement, je prends le parti des archéologues et on doit admettre avec les archéologues que ce monument religieux est juif, que c'est une synagogue, certes pas très grande, mais c'est une synagogue. Et les archéologues semblent le confirmer par le biais de quelques inscriptions hébraïques qu'ils ont trouvées à l'intérieur. Donc vous allez me dire, bon, ça c'est pas déterminant comme argument. Il y a aussi un mobilier archéologique qui a été trouvé à l'occasion de la fouille, qui est un petit peu plus déterminant pour dire ce bâtiment est une synagogue. Donc une synagogue qui est simplement la plus ancienne synagogue médiévale française, puisqu'elle a été datée par les archéologues du début du XIIe siècle. Mais début du XIIe siècle, c'est extrêmement tard. Puisqu'on vient d'expliquer effectivement que depuis l'arrivée des Juifs en Gaule, disons au 1er siècle de notre ère, ces communautés donc avaient bien vécu avec leurs synagogues. Où sont ces synagogues, hein, des communautés juives du haut Moyen-Âge? La plus ancienne synagogue médiévale française, vous l'avez sous les yeux. Hein, et encore, c'est débattu. On ne sait même pas si c'est... Enfin, certains disent non, c'est pas une synagogue où il n'y a rien de probant. Bon, enfin, en tout cas, donc voilà. Donc la découverte en question archéologique a permis de relancer le débat, de se poser la question. Les archéologues, tout d'un coup, se sont dit, attention, quand on fouille un quartier juif, et quand on sait que ce quartier était juif au Moyen-Âge, il faut faire attention, essayer donc d'avoir une lecture du bâtiment qui a été mis au jour à peu près correcte. Bon, ainsi, tout au long du Moyen-Âge, ont coexisté deux traditions monumentales religieuses. Quand on dit monumental, ça se rapporte à des monuments, à des édifices, à des constructions. Les deux traditions monumentales étant, bien sûr, la synagogue et l'église. Avec une précision, la synagogue, le plus souvent, jouxte l'église. Donc ça c'est un modèle qui est très vieux puisque vous le retrouvez à Doura-Oropos. À Doura-Oropos en Syrie, très beau site archéologique, enfin on l'espère encore aujourd'hui, il y a une toute petite rue qui sépare d'un côté la synagogue de la communauté juive et donc la domus ecclesia, donc disons, on va simplifier l'église, de l'autre, de la communauté chrétienne, 3e siècle de notre ère, pour Doura-Oropos. Donc ça, effectivement, c'est une proximité qui est extrêmement importante et même très très précieuse à rappeler, proximité topographique qui rappelle la filiation historique qui va faire du judaïsme la matrice des identités religieuses de l'Occident chrétien. Parce que pensez bien qu'à la synagogue, vous aviez des gens, que vous les appelez les sages de France par exemple, des gens qui savaient commenter l'Ancien Testament, la Torah, et les commentaires qu'ils proposaient étaient extrêmement précieux pour les chrétiens. Donc ils n'avaient qu'une rue à traverser. Donc on imagine donc les liens qui se tissent, bien sûr, entre les savants religieux, donc juifs, et les savants religieux, enfin les théologiens, si vous voulez, du christianisme. Hein, c'est extrêmement précieux, cette proximité, elle a énormément apporté, bien sûr, au christianisme, énormément. Voilà. Alors, ça, c'est un fait. Ensuite, on va dire une évidence, pour encore bien enfoncer le clou. Il est évident que la présence de juifs en Gaule dès l'Antiquité induit la construction de lieux de culte. On ne peut pas l'imaginer autrement. Mais c'est vrai qu'on ne connaît pas d'exemple. Pour l'actuel territoire français, en dehors de cet édifice, qui est le plus vieux, donc avant le début du XIIe, on n'a pas d'exemple. Curieux quand même. Bon, mais donc la construction de nombreuses synagogues, qu'elles soient privées ou qu'elles participent d'installations communautaires, c'est le corollaire de cette présence. On ne peut pas imaginer une présence juive des communautés sans synagogue. C'est pas possible. Donc il y avait bien des synagogues. Cela induit une tradition architecturale spécifique. C'est ce qui va nous intéresser. On élabore une tradition architecturale spécifique qui correspond aux synagogues en particulier. Donc vous avez aussi bien pris conscience du problème. Le problème, c'est l'expulsion des Juifs, ordonnée par le pouvoir royal capétien au XIIe siècle, fin XIIe, c'est Philippe Auguste. Et surtout, le grand événement, c'est bien sûr Philippe le Bel. Hein, Philippe le Bel, début XIVe, 1306, expulsion des Juifs de France. Donc ça, c'est le gros problème, si bien que vous visualisez la situation, du jour au lendemain, on a expulsé les Juifs qui étaient dans leur communauté avec des synagogues, des écoles, des fours, tout un tas de constructions, les expulse. Que deviennent ces bâtiments? Donc les gens sont partis. Donc il y a une coupure, si vous voulez, entre les communautés qui auraient pu transmettre l'histoire de ces bâtiments, justement, et les bâtiments eux-mêmes. Il y a une coupure. Et cette coupure, bon, ben, elle est très défavorable pour la compréhension, justement, de ces bâtiments. C'est très difficile de les comprendre à partir de là. Alors la plupart du temps, ces bâtiments, bon, ont été reconvertis en granges, des habitations, parfois même des églises, des annexes d'abbayes, parfois aussi. Donc ce sont effectivement des exemples que l'on a. Alors revenons à ce bâtiment qu'on a sous les yeux, donc la synagogue de Rouen, qui est au centre du quartier juif médiéval, on l'a dit, qui est difficile à lire, à identifier comme une synagogue médiévale, on l'a dit aussi. C'est un bâtiment qui est relativement simple, construction rectangulaire, c'est pas grand, 9 mètres de large pour 14 mètres de long. c'est relativement petit. 9 mètres de large pour 14 mètres de long pour cette synagogue. Donc construction rectangulaire, une construction qui bien sûr va utiliser un vocabulaire monumental emprunté à des registres non religieux. C'est-à-dire que quand on a à réaliser une fenêtre, ben, on la réalise dans le style roman, ou plus tard dans le style gothique, ce qui correspond à des bâtiments civils de la même ville au même moment. Donc c'est pour ça que les historiens d'art sont plus prudents peut-être que les archéologues, ils ne savent pas les historiens d'art. Eux, ce qu'ils voient, c'est un bâtiment qui est tout à fait caractéristique du bâti du XIIe siècle à Rouen, c'est caractéristique. Là, il y a une ambiguïté architecturale, si vous voulez. On peut parler d'ambiguïté architecturale dans ce cas. Bon, alors ensuite, la synagogue, de plan rectangulaire, est conçue comme ça. Il y a au rez-de-chaussée la salle de prière et des étages au-dessus. Ces étages accueillaient vraisemblablement les espaces dévolus à l'enseignement, c'est-à-dire l'école, pour faire simple, l'école. D'autres types d'activités peut-être, mais donc l'école sans doute. Alors, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de voir maintenant que les archéologues se sont quand même posé sérieusement la question de ces bâtiments donc juifs, des communautés juives, des villes françaises, et puis d'autres trouvailles ont été faites par la suite, après Rouen, comme par exemple la synagogue de Montpellier. Donc là, c'est-à-dire que cette découverte de Rouen, elle a stimulé les archéologues, qui se sont dit, c'est pas normal quand même, qu'on trouve pas, bon, c'est peut-être justement parce qu'on ne sait pas lire les bâtiments proprement dit. Alors, voilà une autre découverte qui a été faite peu de temps après celle de Rouen. Donc, c'est la synagogue de Montpellier, qui est un petit peu plus tardive. Alors ça, c'est très intéressant parce que nous sommes après. Vous voyez, on peut dresser, si vous voulez, une petite chronologie, remettre ces édifices dans leur époque, grâce d'ailleurs à l'analyse de l'architecture elle-même. Donc là, les fenêtres seront plutôt gothiques, donc on n'a pas de mal à dire c'est 13e plutôt que 12e, entre autres. Donc, synagogue de Montpellier, qui témoigne de sa diffusion au 13e siècle, je parle du type architectural qu'on a vu à Rouen, et effectivement, on découvre ici une synagogue qui est à peu près rectangulaire, et la forme qui est à peu près rectangulaire, qui n'est pas très grande, 7,50 m de long pour 5 mètres de large. Même problème, dans un premier temps en tout cas, que la synagogue de Rouen, c'est-à-dire que les codes ornementaux gothiques usités ici sont exactement les mêmes que ceux de l'architecture civile de Montpellier. Donc, qu'est-ce qui nous fait dire que ce bâtiment rectangulaire est une synagogue, alors qu'a priori, il n'y a rien, il n'y a aucune spécificité qui nous ferait dire que ce bâtiment est une synagogue, excepté, voilà, donc ce qui jouxte la synagogue, et là qui va confirmer, c'est plus discutable à partir de ce moment-là, dès lors que les archéologues ont trouvé à côté un mikbé. Là, que voulez-vous, on ne peut pas se tromper, là, c'est plus possible. Donc le mikbé atteste bien que la construction qui est à côté est une synagogue. Sinon, ça serait le même problème qu'à Rouen. À Rouen, il n'y a pas de mikbé à côté. Il y a très très peu d'informations archéologiques qui permettent de dire à coup sûr que c'est une synagogue. Il y a toujours ce doute, si vous voulez. Mais là, Montpellier, non, à Montpellier, c'est une certitude. Ou une quasi-certitude, il faut toujours être prudent, bien sûr, il faut toujours être prudent, mais enfin, bon, c'est une quasi-certitude. Voilà, pour cela, alors, continuons donc à citer d'autres exemples. Là, j'ai pas de visuel, mais enfin, je le signale oralement, à Orléans. À Orléans, c'est une église qui s'est construite sur la base d'une synagogue médiévale. L'église s'appelle Saint-Sauveur. Elle est encore en partie conservée, mais en partie seulement. Donc il y a des vestiges, si vous voulez, des vestiges de l'église Saint-Sauveur. Et là, c'est la tradition locale, la tradition historique, si vous voulez, locale, qui attribue ces vestiges de l'église Saint-Sauveur d'Orléans à une synagogue médiévale. Alors c'est très très précieux, cette tradition locale, parce que voilà, les gens le savaient, quoi. À Orléans, ils savaient que cette église avait été faite sur une synagogue. Or, si on accepte cette idée, cette tradition historique locale, le plan décrit par cet ensemble est un rectangle. Donc Rouen, c'est un rectangle, Montpellier, c'est un rectangle, Orléans, c'est un rectangle, donc ça confirme un type. Oui, on parlait tout à l'heure, on évoquait justement la question de la spécificité architecturale des synagogues juives de France. Enfin, juives, c'était pas utile. Là, vous en avez une. Ce sont des bâtiments plutôt petits et rectangulaires, avec souvent des étages au-dessus de la salle de prière. Bon, autre exemple, oui, donc pour l'église en question Saint-Sauveur, le style, donc le décor, si vous voulez, comme la corniche extérieure, permettent de dater l'église en question du XIIe siècle. Donc, comme on sait qu'elle est construite sur la base d'une synagogue, la synagogue doit dater du XIe, XIIe siècle. Mais on n'a rien, il n'y a qu'une tradition historique, locale. Donc ça n'enlève rien, c'est bien Rouen qui, au jour d'aujourd'hui, est la plus ancienne synagogue de France, connue. Autre exemple, celui-ci, c'est l'église Sainte-Madeleine en Lille, à Paris, qui confirme que des synagogues médiévales sont reconverties en églises après l'expulsion des Juifs. Là, c'est plus précis, c'est suite à l'expropriation des Juifs ordonnés par Philippe Auguste. C'est un événement qui est bien daté, c'est en avril 1182, précisément, que Philippe Auguste décide d'exproprier les Juifs de l'île de la Cité. En même temps, cette information permet de dire qu'il y avait depuis très longtemps une communauté juive installée sur l'île de la Cité. À l'époque de Lutèce, il y avait une communauté juive sur l'île de la Cité. Et donc c'est cette communauté qui gêne Philippe Auguste, donc il exproprie ces Juifs, et la synagogue de l'île de la Cité à Paris est transformée en église et devient Sainte-Madeleine en Lille. Le problème c'est que l'édifice, je parle de l'église, a été détruit entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle. Donc il ne reste plus rien. Donc XVIIIe siècle, c'est une époque où on n'a que du mépris pour le gothique. L'art médiéval, c'est un art barbare, c'est un art qui n'est pas apprécié du tout au XVIIIe siècle. Il est gothique, il est barbare. Et donc sur l'île de la Cité au XVIIIe siècle, on n'a aucun scrupule pour détruire des édifices gothiques, médiévaux si vous voulez, qui sont gênants. Et donc cette église Sainte-Madeleine en Lille en fait les frais. Heureusement que des plans, c'est ce que vous avez sous les yeux, avaient été réalisés avant la destruction de l'église en question. Juste avant la destruction, on dresse le plan que vous avez sous les yeux. Vu les conditions, quand on sait que l'église a été construite au cœur de la communauté juive de l'île de la Cité à Paris, on peut effectivement penser que l'église était la synagogue de la communauté en question. C'est ce que proposent les archéologues qui disent il est tentant, voilà, donc ils sont plus prudents là aussi, il est tentant d'y reconnaître les vestiges de la synagogue médiévale. Et dans ce cas, si un jour on a la confirmation de cela, ce qui est très difficile, très très difficile, ce serait une des plus grandes synagogues médiévales de France, avec 8 mètres de large pour 33 mètres de long. Beaucoup plus conséquent que Rouen et Montpellier, surtout Montpellier. Montpellier, je ne sais pas si je donnais les dimensions à Montpellier, c'est 7,50 m sur 5 mètres, c'est tout petit Montpellier, c'est vraiment tout petit. Là, c'est 8 mètres de large pour 33 mètres de long, pour cette église-là. Encore une fois, qu'est-ce que l'on remarque? Que l'on applique bien un type architectural, une formule, qui est extrêmement simple, qui est le plan rectangulaire, associé ou pas, ça dépend des besoins des commanditaires, à l'adjonction d'étages au-dessus donc, du plan rectangulaire. Ne tenez pas compte du transept ici, vous ne voyez que la nef, c'est ça la salle rectangulaire. Salle rectangulaire avec ou non des étages au-dessus, pour des raisons que vous savez. Bon, voilà, donc c'est ainsi qu'on voit se dessiner un type de synagogue dans le paysage urbain français au Moyen-Âge. Et puis, chemin faisant, les archéologues font une autre découverte. C'est la découverte de la synagogue de Lagny-sur-Marne. Ah, et là aussi, on est prudent, sans doute, mais bon, non, c'est une synagogue, c'était une synagogue. Voilà, alors donc ça c'est une découverte qui est un peu plus récente, 1999 précisément, les archéologues mettent au jour la synagogue de Lagny-sur-Marne. Voilà un édifice qui est totalement détruit, enfin on le voit bien, c'est totalement détruit, et détruit pour une raison qui est extrêmement précise, c'est à cause de son intégration aux fortifications urbaines mises en place au XIVe siècle. Et d'ailleurs, remarquez quelque chose, ça correspond à l'expulsion des Juifs de France. Ils sont expulsés, ces bâtiments sont donc vidés. Qu'est-ce que l'on en fait pour la synagogue de cette communauté? On l'intègre aux fortifications urbaines qui justement sont mises en place au XIVe siècle. Voilà. Mais les archéologues nous disent, dans son état primitif, cette construction, donc cette synagogue, était une vaste salle à deux nefs, séparées par deux piliers isolés. Donc là, on change de formule. C'est une autre formule, c'est un autre type de construction. C'est-à-dire, certes, toujours une salle de plan rectangulaire, mais divisée à l'intérieur en deux nefs, enfin il y a deux nefs à l'intérieur, hein, avec des piliers isolés. Les dimensions sont confortables, 18 mètres de long pour 6 mètres de large, c'est plus grand que Montpellier, c'est même plus grand que la synagogue de Rouen, mais c'est plus petit que celle de Sainte-Madeleine en Lille. Bien sûr, on va retomber sur le même type de problème, c'est-à-dire, est-on sûr que c'est une synagogue? Vous voyez, constituer sans doute une synagogue. Et les problèmes sont toujours les mêmes. La construction, sur un plan stylistique, doit tout finalement au gothique. C'est une construction fondamentalement gothique. Donc comment sait-on que c'est une synagogue? Tout simplement parce qu'il y a une annexe à cette salle, hein, qui a été trouvée par les archéologues à la même occasion des fouilles, que je vous montre aussitôt, et cette construction est vraisemblablement un mikbé. C'est un mikbé, c'est comme à Montpellier, si vous voulez, à côté de la synagogue, le mikbé. Donc, oui, là, je pense qu'on peut dire, il n'y a pas de doute, hein, cet ensemble est un ensemble juif. Les archéologues nous parlent de cette construction, nous disent qu'elle est contemporaine de l'édifice principal, c'est-à-dire XIIIe siècle. Si là vous avez XIIIe, XVIIIe siècle, c'est que tout simplement ce bâtiment, par la suite, a été réaménagé, donc réutilisé, etc. Et donc, il a connu des changements. Mais dans son état primitif, les archéologues nous disent qu'il était voûté d'arêtes. Ils arrivent à déterminer, hein, que le bâtiment était voûté d'arêtes, que son sol déterminait un très important encaissement en comparaison des cheminements extérieurs. Pour le dire plus directement, il y a un dénivelé, mais considérable. Hein, donc, et ce dénivelé est compensé par l'aménagement de ce que vous avez sous les yeux, un escalier. Donc pour accéder au mikbé, quand vous êtes à la synagogue, par exemple, hein, ou le cheminement extérieur. Hein, bon, donc il faut emprunter cet escalier pour accéder au mikbé. Et remarquez l'aménagement à côté de l'escalier d'un puits. Un puits accompagné d'une citerne. Il n'y a pas de doute, c'est bien un mikbé. Bon, moi, il me semble. Hein, bon, il vaut mieux être prudent, c'est sûr, mettre des points d'interrogation, dire sans doute, c'est probable. Mais enfin, bon, non, c'est un mikbé, quoi, que l'on a sous les yeux. Alors, donc, il n'y a pas de communication directe entre le mikbé et la synagogue, ce qui est normal. C'est comme à Montpellier, c'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas de communication entre la synagogue et le mikbé. Le mikbé est utilisé en dehors, donc bien sûr il y a une relation avec les fêtes, mais c'est complètement indépendant des fêtes ou des rassemblements dans la salle de prière de la synagogue. Bon. Alors par ailleurs, si on revient à la synagogue, les archéologues y ont trouvé deux attaches métalliques dans la travée centrale, sur le mur oriental, paroi intérieure, donc à l'intérieur, deux attaches métalliques dans la salle principale qui devaient répondre à la présence d'une armoire. Car ça, c'est une règle. Il n'y a pas de synagogue sans arche sainte, sans arche armoire. Il y a forcément une arche armoire qui contient la Torah, les rouleaux de la Torah, manuscrits. Et donc les archéologues nous disent, c'est probablement les attaches métalliques qui permettaient de fixer l'arche armoire à l'intérieur de la synagogue. Voilà. Alors bon, c'est un édifice qui est effectivement très remarquable. Et le plan, s'il vous intrigue, alors que nous sommes passés donc du plan simple rectangulaire à un plan rectangulaire à deux nefs, s'il vous intrigue, sachez qu'on en connaît d'autres exemples ailleurs en Europe. Par exemple, à Prague, à Cracovie, à Ratisbonne, vous avez des synagogues qui sont pas forcément conservées aujourd'hui, qui ne sont pour certaines que documentées, Bon, mais il y avait à Prague, à Cracovie, à Ratisbonne, des synagogues qui correspondaient à celles de Lagny-sur-Marne. Donc, vaste salle rectangulaire séparée en deux nefs. Ainsi, voilà, on met en évidence deux types distincts. Je vous rappelle que tout ça, c'est un travail archéologique qui a démarré il y a 35 ans, à peu près. Et donc, vous voyez, les archéologues arrivent à maintenant, enfin, ils sont plus vigilants. Ils ont fait une autocritique. Donc ils se sont dit, c'est pas normal quand même, alors qu'on sait que les communautés juives de France se portaient très très bien, en tout cas jusqu'à l'époque de Philippe Auguste, c'est pas normal qu'on ait pas de traces, quoi. Ils ont fait une autocritique, ont commencé à lire les édifices qu'ils mettaient au jour différemment, et voilà donc ce que ça donne finalement. Hein. Donc ainsi on peut mettre en évidence deux types distincts. Vous l'avez bien compris, formule simple à plan rectangulaire, c'est Rouen-Montpellier, et une organisation un petit peu plus complexe à deux nefs, c'est Lagny-sur-Marne. Et donc ça suggère quoi tout ça? Ben, la richesse d'un paysage monumental qui par contre reste pour une large part à découvrir, c'est-à-dire qu'il faut attendre d'autres découvertes archéologiques. L'archéologie, c'est une science qui est extrêmement précieuse, hein. C'est quelque chose qui est vraiment indispensable, qui devrait être porté par l'État, financé par l'État. De ce point de vue-là, l'actualité, c'est catastrophique. L'archéologie française se porte très très mal. C'est dommage parce qu'effectivement, là, on a une tradition de construction juive, tradition qui demeure anormalement minorée, dans le paysage archéologique français, c'est une tradition qui est anormalement minorée, par rapport en tout cas au portrait que nous en font les historiens de ces communautés juives du Moyen-Âge. Alors donc, parlons du Mikbé, puisque vous avez bien compris effectivement qu'il y a là un édifice qui est fondamental, facile à identifier. La lecture du Mikbé est facile pour des raisons qui vont apparaître maintenant, enfin qui sont vraiment frappantes. Et dès lors, effectivement, dès que l'on trouve le Mikbé, bah, le bâtiment qui est à côté est très probablement une synagogue. Donc parlons du Mikbé. D'abord, vous avez la définition dans votre glossaire. Hein. Donc là, je vais la lire avec vous. La définition qui dit, bon, c'est un terme hébreu qui désigne un bain aux fonctions purificatrices, essentiellement destinées aux femmes qui doivent, après chaque menstruation, s'y immerger afin de clore la période d'impureté succédant à la fin de ce cycle. Attention à cette perspective, elle est strictement religieuse, d'accord ? Bon, c'est-à-dire que là, on suit la jurisprudence juive, on suit la halakha. Cette pratique nécessite la construction d'édifices accueillant ces aménagements. Les conditions de l'adduction d'eau, eau de pluie non souillée ou eau de source provenant directement du sous-sol, et la quantité de liquide, il faut au minimum 750 litres dans la piscine, dans le mikvé. Voilà, et donc tout ça, ça répond à des conditions précises permettant l'utilisation du mikvé. La nudité des utilisatrices nécessite, oui parce qu'on va être impudique, donc on va aller vers un peu plus d'impudicité, si on se dit. Bon. Donc en tout cas, la nudité des utilisatrices nécessite également un bâtiment pourvu d'un éclairage très réduit et souvent sommital, ainsi que d'un accès discret et facilement contrôlable. Traditionnellement, les mikbés sont très fortement encaissés, comme celui que vous avez sous les yeux, un escalier permettant en général un accès direct à la zone immergée, parfois précédée d'un déshabilloir. Bon, alors, essayons de pousser les choses un peu plus loin. Et en cela, effectivement, on va être un peu plus impudique. Donc, construire un mikbé pour une communauté juive prévaut sur l'édification d'un lieu de culte. Finalement, le lieu de culte, la synagogue, c'est pas compliqué. On vient de le voir. Qu'a-t-on besoin ? D'une salle, Le lieu de culte, ce n'est pas le problème. Le lieu de culte, c'est une salle. On se rassemble dans la salle, et pourvu qu'on ait les rouleaux de la Torah, eh ben, donc les fêtes, les prières peuvent se faire effectivement dans la salle en question. Mais là, c'est un peu différent. Le mikbé a des contraintes, si vous voulez, et si bien, et c'est d'ailleurs si important, que ça prévaut sur l'édification du lieu de culte. Autrement dit, pour la loi juive, on ne peut prétendre au statut de communauté sans posséder de mikvé. Le mikvé est plus important que la synagogue, plus important que l'édifice cultuel, pour la raison que je viens de dire à l'instant. C'est pas compliqué, l'édifice cultuel. Une simple salle suffira. Ça fait l'affaire, mais pas le mikvé. Le mikvé, c'est différent. Et donc, c'est un principe de base, et d'ailleurs, que vous voyez à l'œuvre dans l'Israël d'aujourd'hui. Hein, ça montre à quel point c'est important, et que ça prévaut sur l'édification d'un lieu de culte. Aujourd'hui, les autorités religieuses juives en Israël se montrent très attentives aux exigences de ce que l'on appelle la halakha. La halakha, vous avez la définition dans le glossaire, pardon, je vais trop loin, la halakha, c'est la jurisprudence juive, hein, pour faire les choses simples. Donc, c'est-à-dire, concrètement, dans l'Israël d'aujourd'hui, tout nouveau quartier, toute ville nouvelle voit s'ériger en premier lieu le mikbé. Dès lors que les offices religieux peuvent se dérouler dans une salle, qu'importe la salle c'est pas le problème, la salle c'est pas le problème, c'est le mikbé que l'on va aménager, ériger, construire en premier. C'est ça qui va compter. Hein. Autre chose aussi, un quorum requis, hein, puisqu'on parle de communauté, il faut donc un quorum requis de 10 adultes mâles. C'est ce que l'on appelle, c'est toujours tiré de la jurisprudence juive, l'alaka, le minyan. Vous avez le mot à côté, ça. Voilà, donc ça définit 10 adultes mâles constitués. Ils sont juifs, ils forment une communauté. À partir de là, la règle est d'aménager un mikbé. Donc le mikbé, vous l'avez compris, ressemble à une petite piscine. Il y a une eau de provenance naturelle, hein, on l'a dit. Donc cette eau naturelle est une eau de source ou même eau de pluie. D'où la signification d'ailleurs. Mikbé signifie rassemblement des eaux. C'est le rassemblement des eaux. Donc il faut que l'eau arrive à hauteur de poitrine, dans la piscine en question, dans le mikbé, et en général, il y a assez de place pour 3-4 personnes dans un mikbé. On a vu ça à l'instant, il y a des marches qui descendent dans l'eau du mikbé et qui en facilitent l'accès. Il y a aussi, ce qui va s'avérer très important, un orifice qui est un petit trou d'un diamètre de 5 à 8 cm. Pourquoi ? Pour permettre l'arrivée naturelle de l'eau. Si ce détail vous paraît insignifiant, il ne l'est pas. Il confère au bassin son statut de mikbé. Mikbé, c'est, on l'a dit, une eau de provenance naturelle. Donc, obligatoirement, il faut cet orifice qui achemine l'eau dans la piscine et qui va s'évacuer par des voies tout à fait naturelles. Alors, là-dessus, ajoutons que la contenance même du mikvé doit répondre à des règles, et ça se rapporte à la Séa. Alors, la Séa, c'est quoi ? C'est une ancienne mesure biblique qui équivaut à 18 litres d'eau. Une Séa équivaut à 18 litres d'eau. Alors pourquoi je mets ça en Séa ? Parce que c'est symbolique. Le mikbé doit contenir 40 Séa. 40 fois 18 litres d'eau. 40, mais 40 c'est un chiffre. 40 c'est les 40 années que le peuple hébreu passe dans le désert. C'est les 40 jours que le Christ passe dans le désert. C'est les trois portions de 40 ans qui constituent toute la ville. Toute la vie de Moïse. Moïse a vécu 120 ans, 3 fois 40, donc à chaque fois, vous savez que quand il arrive à l'âge de 40 ans, il se passe quelque chose, quand il arrive à l'âge de 80 ans, il se passe quelque chose, bon. Et donc à l'âge de 120 ans, il meurt. 40, c'est un chiffre, c'est très symbolique, et 40 fois 18, bon, bah, ça fait à peu près environ, quoi, hein, donc 750 litres, enfin, vous faites le calcul. Donc en tout cas, il faut un minimum de 750, 760 litres dans un mikvé. Et le mikbé doit être creusé à même le sol, c'est-à-dire que l'on exclut catégoriquement le caisson ou la baignoire. Un mikbé n'est pas un caisson qu'on pourrait démonter, transporter, installer dans le, ben dans le creux, hein, donc, du mikbé, certainement pas. Et ça exclut aussi toute tuyauterie, toute canalisation. Et revenons sur l'utilisation. Maintenant qu'on a une bonne idée, donc, enfin j'espère en tout cas une bonne image plutôt, une bonne image du mikbé, on revient à son utilisation, quitte à être effectivement impudique. La loi juive requiert de faire usage du mikbé dans des circonstances majeures. Le mot est très important. Les circonstances sont majeures, nous dit la loi juive. On suit toujours la halakha, la jurisprudence. Hein. Par exemple, une femme après menstruation ne peut avoir de relation intime avec son époux qu'à condition de s'être immergée. Et donc, purifié dans le mikbé. Et j'insiste, c'est là une loi biblique impérieuse. C'est une obligation. Ou la jeune fille, à la veille de ses noces, elle doit se conformer à l'obligation du mikbé. Mais cette immersion dans le mikbé fait aussi partie du processus de conversion au judaïsme, c'est-à-dire qu'elle est obligatoire, et là ça vaut aussi bien pour une femme qu'un homme, et une femme ou un homme ne pourrait se prétendre juif sans s'être baigné, plongé, purifié, donc, dans le mikbé. C'est obligatoire. Hein. Donc pour l'homme, c'est la circoncision, plus donc le bain dans le mikbé. Pour la femme, c'est le bain dans le mikbé. Et là, effectivement, on peut dire qu'on est juif. Par ailleurs, donc oui, le mikbé peut être utilisé par la gent masculine, notamment à la veille des temps shabbatiques et festifs. C'est un signe de purification, c'est-à-dire qu'avant le Shabbat, par exemple, un homme qui veut assister à la fête du Shabbat descend dans le mikbé, se purifie, se baigne et peut effectivement ensuite assister au Shabbat. Et je le dis pourquoi ? Parce que souvent, dans les textes, vous trouvez le bain des femmes. Le mikbé, c'est le bain des femmes. Non, pas du tout. Pas du tout, hein. C'est pas que le bain des femmes, hein. Le mikbé, pas du tout, hein. Dans la littérature, c'est ce que vous trouvez, le mikbé, c'est le bain des femmes. Non, c'est pas que le bain des femmes. Certes, on l'a compris, les femmes l'utilisent sans doute plus que les hommes, puisqu'elles doivent l'utiliser avant le mariage, après les règles et après l'accouchement. Mais les hommes l'utilisent aussi pour se purifier. Et enfin, le mikbé s'applique également, ce sont toujours des lois impérieuses, aux ustensiles de cuisine qu'on va utiliser pour les fêtes. Donc ces ustensiles de cuisine qu'on va utiliser pour les fêtes doivent être purs et licites à l'utilisation. Donc on les trempe dans l'eau et ils seront purs et licites à l'utilisation, mais après trempage dans le mikbé. Et donc qu'est-ce qui ressort de tout ça ? Une loi, mais enfin c'est pas une surprise, une loi juive, une jurisprudence qui est extrêmement contraignante. Le mikbé fait apparaître cela. Bon. Et ça permet aussi de faire une distinction entre ceux qui sont, et c'est vrai pour toutes les religions, de simples croyants et ceux qui sont les pratiquants. C'est vrai pour le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et bien sûr, la plus grande majorité des fidèles, des religieux, sont de simples croyants. C'est la grande majorité. Donc une petite minorité sont des pratiquants. Mais quand on dit pratiquant, c'est pratiquant. C'est-à-dire il faut suivre la loi, la jurisprudence. Hein. C'est une minorité, hein, les pratiquants. Et c'est vrai que dans le christianisme, c'est vrai dans l'islam, vous avez autant de contraintes hein, qui sont liées à la pratique du christianisme, à la pratique de l'islam. Là, vous avez les pratiques dans le judaïsme, mais qui ne sont pas suivies. Il y a beaucoup de juifs qui, bien sûr, ne suivent pas ça, qui sont simples croyants. Bon. Alors, on l'aura compris, dès l'Antiquité, le mikbé sert essentiellement aux fins de purification rituelle et spirituelle. En fait, on pourrait dire, pour être plus nuancé, hein, et donc du même coup un peu plus précis, sur l'utilisation du mikbé, que le mikbé ne vient pas laver une souillure, pas tout à fait, mais opère en fait le passage de l'homme ou de la femme, de l'état de tamé, c'est écrit sur la projection, c'est-à-dire un état impur, à l'état de Tahor. L'idée, c'est plus l'idée de passage. Pas tellement laver une souillure. Alors, laver une souillure, si vous voulez, donc c'est sûr, c'est une purification. On se lave d'une souillure, mais enfin, c'est plutôt l'idée d'un passage. Et d'ailleurs, le Talmud dit, alors là, je cite carrément le Talmud, qui dit... Dès que quelqu'un se convertit au judaïsme, il devient semblable à un nouveau-né. La formule est très précieuse, hein, elle est très très intéressante, parce que ça confirme effectivement que c'est l'idée de passage, mais il y a une autre idée qui est aussi très, très importante. L'immersion dans le mikvé agit comme un processus de renouveau, de renaissance. Dès que quelqu'un se convertit au judaïsme, il devient semblable à un nouveau-né. Je vous rappelle, hein, conversion au judaïsme, c'est obligatoire pour l'homme, pour la femme, plonger dans le mikvé. Donc on plonge dans le mikvé, on devient un nouveau-né. C'est un renouveau, c'est une renaissance. C'est donc bien un passage. Donc bien un passage. Et vous verrez là, évidemment, l'origine du baptême chrétien par le rite de l'eau. Le baptême des chrétiens est aussi un passage. C'est un renouveau, c'est une renaissance. J'ai dit l'origine, bon, c'est une des origines du baptême chrétien par le rite de l'eau. Donc voilà un peu pour bien préciser ce qu'est le mikvé, donc son utilisation. Et alors on arrive, ou on revient plutôt, au mikvé de Montpellier. Alors, revenons là-dessus, parce qu'effectivement, il y a des choses intéressantes à signaler. Alors, nous sommes en 1985 sous Georges Frêche, donc le maire Georges Frêche de Montpellier, et l'on engage des travaux qui vont solliciter les organismes et les personnes compétentes. Il y a donc une volonté politique à l'origine, c'est celle de Georges Frêche, de mettre, ou plutôt de restituer au public, ce vestige restauré du mikvé, et donc l'ensemble, tout le cadre avec la synagogue. Donc, il y a eu une inauguration en 1985 suite à un colloque. Donc le colloque réunissait les archéologues, les historiens, les urbanistes qui avaient travaillé sur ce quartier donc de Montpellier. Le colloque s'était intitulé « Les Juifs à Montpellier et dans le Languedoc du Moyen-Âge à nos jours ». C'est bien sûr une publication, après le colloque c'est une publication, « Les Juifs à Montpellier et dans le Languedoc du Moyen-Âge à nos jours ». Le colloque s'était tenu à l'automne 1985, et à l'issue du colloque, on inaugurait cet ensemble, donc il avait été restauré, restitué au public. 1985, on fêtait aussi le millénaire de la capitale des Guilhems. Les Guilhems, ce sont les seigneurs de Montpellier depuis 1985. Voilà. Et là, nous étions en 1985. Bon. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est d'évoquer les célèbres frères Plater, dont vous avez les références, les frères Plater, donc c'est Félix et Thomas Plater. Qui sont-ils? Ce sont des étudiants qui sont arrivés à Montpellier pour accomplir leurs études de médecine. Vous savez que Montpellier était une faculté, enfin, il l'est toujours, mais enfin, donc la faculté de médecine de Montpellier est très très ancienne, était très très réputée au Moyen-Âge. Donc, Félix et Thomas Plater viennent de Bâle, ils sont allemands, ils sont juifs, et ils arrivent dans la seconde moitié du XVIe siècle à Montpellier pour faire leurs études de médecine. On peut être plus précis, Félix, qui est l'aîné, arrive en 1552 et repart en 1557 après ses études. Quant à Thomas, qui est le cadet, il arrive plus tard, en 1595, et il repart en 1599. Ils retournent chez eux à Bâle, où ils seront des grands médecins. Leur séjour dans l'école de médecine montpelliéraine, très renommée, a été consigné dans leur journal de voyage. C'est pour ça qu'ils sont extrêmement précieux, c'est-à-dire qu'au cours de leur passage à Montpellier, ils nous parlent des gens qu'ils ont rencontrés, donc de la ville, enfin, ils tiennent un journal de voyage. Et ils sont, par conséquent, les témoins de leur temps, des témoins très très précieux, pour cette seconde moitié du XVIe siècle, et ils vont, par exemple, nous parler des marrants ou des maranes, c'est comme vous voulez, enfin, on peut dire marrants, donc les maraudes, les maranes, ce sont dans l'Europe médiévale ceux qui sont les juifs convertis de force au catholicisme, ainsi que leurs descendants, mais qui continuent à pratiquer en cachette le judaïsme ancestral. On en avait parlé un petit peu, c'est du crypto-judaïsme. La semaine dernière, je crois qu'on en avait parlé un petit peu. Voilà, alors il nous parle effectivement de ceux qu'il rencontre, qui sont les marans, les maranes, par exemple leur logeur. Il loge dans la famille ou chez la famille catalan. Or, les catalans sont des crypto-juifs, donc ils sont juifs, ils pratiquent un judaïsme caché, et ils nous en parlent, donc les frères Plater, donc c'est très très précieux, bien sûr. Ou alors des enseignants qu'ils ont eus à la faculté de médecine. Donc les enseignants sont les Saportas. Les Saportas étaient des réfugiés aragonais, donc des réfugiés aragonais, qui arrivent à Montpellier, qui deviennent à Montpellier de doctes praticiens, et qui seront les maîtres des frères Plater. Et donc les frères Plater en parlent, d'autant plus qu'ils étaient juifs, hein. Les Saportas étaient juifs, enfin, crypto-juifs, si vous voulez. Bon. Alors, Thomas Plater, a laissé quant à lui une série d'impressions sur les juifs d'Avignon, parce qu'il ne fait pas que rester à Montpellier, il visite les alentours. Et il va dans la communauté juive d'Avignon, où là, donc, effectivement, il nous parle des coutumes, de l'éducation que les juifs d'Avignon donnent à leurs enfants. Il nous parle encore de l'observance de leurs fêtes, de leur mariage. Et bien sûr, il nous parle du Nigbé, du bain rituel, d'Avignon. Donc là, on va citer Thomas Plater. Donc il parle des Juifs d'Avignon, c'est un journal qu'il tient la veille de son départ, nous sommes en 1599, voilà, et donc on va citer le passage qui correspond bien sûr au Migbé. Il nous dit ceci, vous allez voir, c'est très très intéressant ce qu'il dit, parce qu'il apporte des précisions, hein. C'est très concret, je vous avais dit qu'on allait être de plus en plus impudique finalement. Donc voici ce qu'il dit, « On m'a montré sous la synagogue » plusieurs bassins où les femmes viennent souvent se purifier en se plongeant entièrement sous l'eau, de manière qu'il ne reste pas un cheveu dehors. Elles tiennent les doigts et tous les membres écartés pour que de l'eau puisse pénétrer partout. Cela les expose souvent à de grands dangers, surtout en hiver, car il leur est défendu de faire chauffer l'eau. Et oui, mais bon, c'est intéressant de le dire quand même. Bon. Et il rajoute ceci, d'ailleurs, il est parlé longuement de ces bains et d'autres cérémonies concernant les femmes dans un livre judéo-allemand, n'oubliez pas qu'il est allemand, hein, Plater, qui est appelé, dit-il, le livre des femmes. Le livre des femmes. Donc il y a un livre qu'il connaît, qu'il a lu, qui est le livre des femmes, et il rajoute, je puis donc me dispenser de m'étendre davantage sur ce sujet. Enfin, il aura donné quand même une information intéressante. 1599, hein, le voyage de Thomas Plater à Avignon. Et revenons à Montpellier. Mais cette fois-ci, on va citer le chanoine Charles d'Aigrefeuille, qui va publier au XVIIIe siècle, en 1739, une histoire de la ville de Montpellier depuis son origine jusqu'à nos temps. C'est le titre, hein, je donne tel qu'il est, Aigrefeuille comme Aigrefeuille, hein, donc c'est un chanoine, Charles d'Aigrefeuille, histoire de la ville de Montpellier depuis son origine jusqu'à nos temps. 1739, voici le passage, hein, qui va bien sûr correspondre au Migbé, cette fois-ci de Montpellier. Il va nous parler du Migbé de Montpellier, vous avez sous les yeux là. Il nous dit, le plus ancien monument qu'il nous ait laissé, donc les Juifs, hein, de Montpellier, se voit dans la maison de Montade qui se présente en face lorsqu'on vient par la rue du puits des Esquilles. On y trouve des voûtes souterraines qui répondent à un grand puits d'où l'on tiroie de l'eau pour servir à la purification des femmes juives. Tout alentour, elles avoient des cabinets pour se déshabiller, et dans les murailles de ces cabines, il y a des niches où l'on nettoie le feu pour les chauffer. Donc l'eau est froide, mais quand même le déshabilloir, vous voyez, est chauffé. Où l'on nettoie donc le feu pour les chauffer, et des lampes pour les éclairer. À côté, on trouve une plus grande voûte où il y a quatre ouvertures au haut, par où les femmes entendoient la prédication du rabbin de la même manière qu'elles font encore dans la juiverie d'Avignon, celle que Thomas Plater avait vue. Et là, c'est une information intéressante. C'est-à-dire qu'on apprend que quand ces femmes se baignent dans le mikvé, elles entendent la prédication du rabbin par des petites ouvertures qui sont pratiquées dans la voûte de la salle qui est à côté. Comme dans la juiverie d'Avignon, donc c'est vrai aussi pour le mikvé d'Avignon qu'avait commenté Thomas Plater. Et ce sont des informations quand même qui sont très très précises. Alors pourquoi j'insistais comme ça donc aujourd'hui sur le mikvé? D'abord parce que, ben, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est une disposition impérieuse, c'est obligatoire, c'est relatif effectivement à la halakha. Ce sont des choses qui sont fondamentales, ça prévaut même sur l'édification d'un lieu de culte, on l'a dit. Et puis, les mikvé du Moyen-Âge en Europe ne sont pas légions. Vous en comptez 5. Ah, donc, autant le dire, quoi. Autant le dire. Donc là, ici, on a la chance à Montpellier d'avoir un mikvé du Moyen-Âge, entendons-nous bien. Je ne vous parle pas de l'actualité. Bien sûr, aujourd'hui, il y a des synagogues partout, donc avec des mikvé, mais pour le Moyen-Âge, en Europe, carrément, c'est pour l'Europe, 5, hein, bon, pas beaucoup. Alors, il y a donc celui-ci, il y en a un à Syracuse. Donc là, c'est très très impressionnant. L'escalier donc descend, mais très profondément, hein, donc 15 mètres, hein, c'est carrément 15 mètres pour accéder au mikvé. À Syracuse, il y en a un à Besalú en Catalogne, bon, que je ne connais pas celui-là, et à celui de Spire que je connais, que j'avais photographié, que voici. Alors les Allemands sont très très soucieux bien sûr de mettre en valeur ces quartiers juifs, comme ici à Spire, en Allemagne, c'est très très impressionnant et c'est vraiment spectaculaire à visiter. Donc là, vous avez effectivement un ensemble de constructions de la communauté juive, dont un mikvé qui est tout à fait impressionnant. Donc vous l'avez ici donc au premier plan, et qui va permettre, en guise, disons, de conclusion, de rappeler qu'un mikvé est composé de trois éléments architecturaux récurrents, qui sont, ben, on l'aura compris, un escalier qui permet l'accès à une salle vestiaire ou déshabilloir, c'est le deuxième élément du mikvé, salle vestiaire ou déshabilloir, et enfin le bain proprement dit, c'est le troisième élément. Alors c'est vrai que celui-ci, là, hein, est très très impressionnant. Là, on va s'approcher, voici donc l'escalier. On va voir les trois éléments, l'escalier, et remarquer à ce propos l'architecture. L'architecture est très intéressante. Pour ceux qui suivent justement les cours sur le Haut Moyen-Âge, remarquez que vous retrouvez un tympan en opus reticulatum, qui est tout à fait caractéristique des maçonneries du Haut Moyen-Âge, qu'on utilise encore un peu au XIe siècle d'ailleurs. Donc ça permet de dire de ce mikvé que c'est un des plus anciens connus en Europe, XIe siècle, quoi. Donc l'appareil réticulé, la quête ici est très très précieux pour ça, hein. Donc avec des piliers, une porte assez large, et la porte conduit à cette salle qui est le déshabilloir, hein, tout simplement. Là aussi, remarquez le style architectural, puisque ça compte énormément pour dater ces lieux. Donc ça, c'est le deuxième élément. Et enfin, donc, on se doute que le puits est ici à gauche, et le voici, hein, enfin je l'ai photographié comme j'ai pu, mais enfin ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive quand même à voir une eau qui est claire. Donc ça veut dire que le mikvé est toujours alimenté par une source, ou là je ne sais plus si c'était une source ou rassemblement des eaux de pluie, bon, je ne m'en souviens pas, mais enfin donc en tout cas, voilà, donc c'est tout à fait typique. Donc oui, c'est une rareté, je pense qu'il fallait dire ou rappeler qu'en France, pour le Moyen-Âge, on a un mikvé, c'est celui de Montpellier, voilà, il n'y a plus qu'à aller le visiter. Si vous ne le connaissez pas, il n'y a plus qu'à aller le visiter, le mikvé de Montpellier. Voilà, donc on continuera la semaine prochaine avec la renaissance intellectuelle, c'est-à-dire Rachi de Troyes.